Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Des pans entiers du vignoble français passés au hachoir après l'orage et la grêle du week-end. Y a-t-il encore des pieds à sauver et comment? Le gouvernement pousse sa réforme de l'assurance récolte. Trop peu d'agriculteurs assurés contre les aléas climatiques. L'actualité, c'est aussi Boris Johnson, toujours sur un fil au Royaume-Uni, le scandale du Partygate. Il affronte ce soir un vote de défiance de sa majorité. La querelle politique en France après le contrôle routier qui vire au drame hier, la passagère tuée. Jean-Luc Mélenchon critique la police et Gérald Darmanin l'accuse de récupération politique. Et puis c'est la fin d'un long week-end qui a encore coûté cher à la pompe si vous êtes parti en voiture et qui a peut-être aussi été l'occasion de pousser la porte de la maison de Jean Cocteau. C'est un lieu unique en région parisienne et une bonne idée pour la saison estivale. Il vient de rouvrir. Et au téléphone sonne Fabienne.
Et bien ce soir, on va se demander si surfer c'est pollué. Est-ce qu'Internet pollue? Est-ce que je dois vraiment effacer tous mes emails? Est-ce que je dois éteindre ma box? Est-ce qu'il suffit de résister à acheter régulièrement des appareils, lutter contre l'obsolescence programmée? Est-ce que c'est vrai que le streaming est un bouffeur d'énergie? Est-ce qu'on peut être un décroissant numérique en 2022? J'ai entre les mains un petit livre très instructif pour ça, destination notamment des plus jeunes qui sont évidemment les premières cibles. Et pour ce qui vous concerne, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Comment sauver ce qui peut encore l'être après les très gros orages du week-end et cette grêle qui a troué les toits et haché les cultures? Les agriculteurs font le tour de leurs terres pour mesurer l'ampleur de leurs pertes. Les vignes ont particulièrement souffert. Dans le Gers, près de 5000 hectares dévastés, dont une bonne partie de celles de ce viticulteur rencontré par Hugo Charpentier.
Au milieu de ces vignes, Johan De Witt ne peut que constater les dégâts.
Les grappes ont été pelées par les grêlons.
36 hectares de vignes dévastées, même chose pour ces 30 hectares de céréales ainsi qu'une parcelle de coton.
On peut compter 80-90% de pertes. Maintenant, voilà, faut relever la tête et on va foncer pour remonter la pente.
Et ça commence par sauver ce qui peut encore l'être. Son cousin, Julien, viticulteur, lui aussi est au volant d'un tracteur. L'engin asperge les vignes d'un produit de couleur bleue.
C'est du cuivre, parce que ça permet de cicatriser en fait les plaies pour permettre que la plante craigne un peu moins les maladies comme le mildiou qui vont certainement se déclencher suite aux dégâts dus à la grêle.
Limiter la casse donc et espérer aussi un coup de pouce de l'État, même si les annonces du jour ne les rassurent pas vraiment.
C'est très bien que le gouvernement prenne des mesures pour nous aider à passer cette situation, mais aujourd'hui c'est vrai que l'année était quand même très très prometteuse et ça malheureusement rien ne nous le compensera.
De toute façon, le jeune agriculteur de 32 ans pense surtout sur le long terme. Avec le dérèglement climatique, les aléas vont se multiplier, grêle, mais aussi gel ou sécheresse. Il faut donc s'adapter, c'est ce qu'il tente de faire avec la culture du coton.
On est encore sur une phase de test. Après, nous, ce qu'on aimerait, c'est continuer à faire la vigne. Mais est-ce que l'avenir nous le permettra? On ne sait pas.
Face aux incertitudes, le coton à la cote, 7 hectares cette année et sans doute une vingtaine d'ici 2 ans.
Reportage Hugo Charpentier. De gros dégâts donc dans le Gers, où s'est rendu le nouveau ministre de l'Agriculture cet après-midi après la Gironde. Dans les vignes, mais aussi dans les champs de céréales, de blé, ça pourrait encore augmenter la pression sur un marché déjà mis à mal par la guerre en Ukraine. Le gouvernement réactive donc toute une série d'aides assez classiques, un allègement de charges sociales, étalement des remboursements des prêts garantis par l'État. Et puis, il y a la question de l'assurance. Bonsoir Mariam El Kurdi.
Bonsoir.
Car trop peu d'exploitations sont assurées.
Oui, un viticulteur sur 3 est couvert par une assurance spéciale catastrophe climatique. 5% des producteurs de fruits et légumes le sont. Pourquoi si peu? Parce que cette assurance coûte cher et aussi parce que l'assureur se base sur le rendement des 5 dernières années de l'agriculteur. Il enlève la meilleure et la moins bonne et il fait la moyenne des 3 autres. Or, si le producteur a eu sa récolte détruite à 100% une fois, puis à 50% l'année suivante, il ne touchera pas grand-chose parce que le système de référence du calcul de l'assurance est trop bas. L'épisode de gel de l'an dernier a poussé à revoir le dispositif d'aide aux agriculteurs pour affronter ces incidents climatiques qui se multiplient. L'enveloppe de l'État va doubler, passant de 300 à 600 millions d'euros dès 2023. Au-delà de 50% de cultures détruites, c'est l'État qui sortira le chèque. L'assurance ne remboursera l'agriculteur que pour les pertes allant de 20 à 50%. Ça va diminuer le coût de l'assurance et l'État l'espère encourager les agriculteurs à mieux se couvrir face aux aléas de la météo.
Les orages qui ont balayé 65 départements ce week-end, de la Bretagne au Land, en passant par l'Indre-et-Loire et l'Allier, et ça risque de se reproduire. Météo France anticipe un été chaud et sec.
Qu'il arrive ou non à sauver son poste, Boris Johnson sera encore un peu plus fragilisé après le vote de défiance de ce soir.
Le Premier ministre britannique sur un siège éjectable après des mois de scandales sur ses fêtes organisées pendant le confinement. Le Partygate, comme on l'appelle, sa propre majorité le soumet donc à un vote de défiance. Il commence en ce moment même. Richard Place, bonsoir. Vous êtes à Londres, Richard. Est-ce que Boris Johnson peut encore s'en sortir ?
Ce soir, oui, il va s'en sortir. Il y a déjà près de 140 députés de la majorité qui ont annoncé qu'ils vont le soutenir. Ils voteront en sa faveur et il faut 180 voix pour obtenir la majorité, sachant que le vote est secret. Tout le monde n'est pas obligé de se prononcer comme l'ont fait les 140 dont je vous parlais. Mais le simple fait d'avoir à s'exprimer sur ce sujet officialise la fracture au sein de la majorité et c'est ça le gros problème. Il suffit d'écouter aujourd'hui la ministre de la Culture sur Sky News, Nadine Dorries, fervente défenseur du Premier ministre encore en poste.
C'est une campagne très bien organisée. C'est une tempête parfaite pour certains. Ce sont des anti-Brexit, des gens qui se sont trouvés pour des raisons différentes. Ils ont perdu leur poste dans des cabinets, au gouvernement. Ceux qui vous disent que ce n'est pas organisé ne vous disent pas la vérité.
Et ceux dont elle parle là, ce sont des gens de son propre camp. Et après le vote ce soir, tous ces gens-là vont devoir à nouveau travailler ensemble. Quand il y a une motion de défiance comme aujourd'hui, il ne peut pas y en avoir d'autres avant un an. On pourrait donc imaginer que Boris Johnson sera tranquille. Mais ce n'est pas si simple. Si les partisans du Premier ministre ne sont pas largement majoritaires ce soir, la gouvernance va devenir quasi impossible. Cet après-midi, Boris Johnson a dit à ses troupes désordonnées « Le meilleur est à venir ». Il n'a pas convaincu tout le monde, c'est certain.
Richard Place, notre correspondant en direct de Londres, Theresa May avant lui avait survécu à une motion de défiance en 2018 à l'ombre du Brexit, mais trop affaiblie, elle avait dû démissionner quelques mois plus tard. Et puis après la cohue de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, trois policiers français sont arrivés à Liverpool aujourd'hui pour recueillir les plaintes des supporters britanniques. L'action de la police qui, à 6 jours du premier tour des législatives en France, déborde sur la campagne électorale. Trois policiers sont toujours en garde à vue. Après une course-poursuite hier dans les rues de Paris, une voiture qui se soustrait à un contrôle et au dire des policiers sur eux. Ils ouvrent le feu en retour, tuant la passagère et blessant grièvement le conducteur. Et l'affaire vire donc à la querelle politique. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir Hélène.
Entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon, parce que le leader insoumis s'en est vertement pris au syndicat Alliance.
Oui, affrontement à distance à moins d'une semaine des législatives. Alors qu'il brigue le poste de Premier ministre en cas de victoire de la NUP, Jean-Luc Mélenchon n'y est pas allé de main morte. La police tue, abus de pouvoir inacceptable, Alliance un groupe factieux, la honte c'est quand, s'est-il interrogé, à 2 reprises sur Twitter à quelques heures de distance, signe d'une volonté d'enfoncer le clou. Réponse aujourd'hui du ministre de l'Intérieur, fidèle lui aussi à sa rhétorique. Les policiers, les gendarmes méritent le respect. Les insulter déshonorent ceux qui veulent gouverner, tacle Gérald Darmanin. Le premier flic de France accuse Jean-Luc Mélenchon de rendre les policiers otages de la campagne. Pas d'état d'âme du côté de Marine Le Pen qui n'a pas hésité à rentrer dans cette danse médiatique, dénonçant des propos de Jean-Luc Mélenchon d'une gravité inouïe qui rompent définitivement, écrit-elle, avec les valeurs de la République. Une manière d'exister quand seul un électeur sur deux dit s'intéresser à la campagne, selon le baromètre Opinionway pour les Échos.
Alliance qui a annoncé de son côté son intention de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Quant aux trois policiers, ils sont toujours en garde à vue. Le conducteur de la voiture l'a été aussi brièvement aujourd'hui. Garde à vue rapidement levée car son état ne lui permet pas encore d'être entendu. Et puis un homme mis en examen à Toulon enquête sur de nouvelles piqûres dont se sont plaints plusieurs spectateurs qui assistaient vendredi soir à l'enregistrement d'une émission de télé de TF1 sur une plage du Var. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu en possession d'une seringue. Quand plus de 60 ans après la tragique nuit du 17 octobre 1961, les archives nous éclairent sur ce que savait vraiment le sommet de l'État de cette manifestation d'Algériens brutalement réprimée par la police. Plusieurs dizaines de personnes tuées et jetées dans la Seine. Des crimes inexcusables commis sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon a récemment reconnu Emmanuel Macron Macron, mais les archives tout juste déclassifiées que Mediapart a consultées nous apprennent aussi autre chose. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Hélène.
C'est que le général de Gaulle savait presque tout de ce qui s'est passé et très vite.
Le président reçoit 11 jours après le massacre des notes très précises d'un de ses conseillers. Bernard Tricot rapporte une cinquantaine de morts au cours du drame, beaucoup plus que le bilan officiel. 3 morts, le général de Gaulle répond au stylo en marge d'une de ses notes avec 2 instructions, faire la lumière et poursuivre les coupables. Gilles Manceron, historien, le rappelle, ces ordres n'ont jamais été suivis d'effet.
Ils n'ont pas été appliqués, en grande partie parce que le général de Gaulle lui-même s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas désavouer ceux qui, au sein même de son gouvernement, avaient pratiqué cette répression. Il y a beaucoup de non-dits et de tabous, et c'en est un qui est pointé par la publication de ces rapports informant le général de Gaulle en octobre 61.
Des archives pour mieux comprendre comment a régné l'impunité autour de ces crimes. Pour l'historien Fabrice Rissé-Putti, leur reconnaissance par Emmanuel Macron en octobre est insuffisante à la lumière de ces éléments.
Puisque cette reconnaissance se bornait, limitait les responsabilités à celles de Maurice Papon. On voit bien que c'est bien tout l'appareil d'État qui était impliqué dans cette affaire. Et donc, il reste encore beaucoup à dire, à reconnaître, à comprendre collectivement dans cette affaire terrible.
Des archives qui n'ont sans doute pas livré tous leurs secrets. Certains documents, Hélène, n'ont pas été répertoriés ou rendus accessibles, notamment du côté de l'armée.
William Delesseux, l'actualité ce soir nous emmène aussi en Irak, qui lutte contre la dispersion de son patrimoine. Très lourde peine décidée aujourd'hui à l'encontre d'un touriste britannique reconnu coupable d'avoir ramassé et emporté des morceaux de poterie considérés comme des antiquités. Son co-accusé, un Allemand de 60 ans, a été acquitté, mais lui est condamné à 15 ans de prison. Lucie Wasserman est à Bagdad.
C'est une décision qui a surpris tout le monde, y compris les avocats de James Fitton, ce Britannique accusé de trafic d'antiquités. La veille, il se disait pourtant confiant pour obtenir une peine d'un an de prison avec sursis, tout au plus, plaidant la bonne foi de leurs clients. Mais le juge irakien n'a pas été convaincu par cet argumentaire et a reconnu cet ancien géologue coupable de contrebande. L'affaire avait débuté il y a 3 mois. Ce Britannique était alors en voyage organisé dans le pays pour visiter des sites archéologiques. Autour de l'un d'eux, il trouve quelques fragments de poterie qu'il ramasse en guise de souvenirs, selon lui. Il en donne également à l'un de ses compagnons de voyage, un Allemand. Mais au moment de partir, le 20 mars dernier, les deux Européens sont interceptés à l'aéroport. Seul le Britannique qui a ramassé les objets a été jugé coupable ce lundi, écopant de 15 ans de prison. Une peine sévère que les autorités veulent certainement ériger en exemple, alors que le pays, le cœur de l'ancienne Mésopotamie, fait face à de très nombreux pillages depuis des décennies. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
Et à l'étranger encore, l'avion de Sergueï Lavrov interdit de survoler la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro aujourd'hui pour se rendre en Serbie. Les 3 pays invoquent les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Une attitude scandaleuse, juge le ministre russe des Affaires étrangères.
Encore un immeuble qui menace de s'effondrer, encore des habitants qui doivent évacuer en urgence.
Ce sont parfois de vieux immeubles de centre-ville que le temps fissure. Ce sont aussi des bâtiments, comme dans le cas présent, délabrés, tenu par des marchands de sommeil. L'habitat indigne touche l'Île-de-France et particulièrement la Seine-Saint-Denis. 63 personnes ont jusqu'à mercredi pour quitter leur immeuble d'Aubervilliers sans savoir où aller. C'est le reportage d'Ajra Mohamed.
Du haut de ses 6 ans, Sultana nous montre le salon qui fait office de chambre à coucher pour elle et toute sa famille venue de Syrie.
Ça, c'est maman, elle est là. Après, papa, elle est là-bas. Fatima, elle est là-bas. Elle est là.
Ah là, il fait froid ici?
Oui, il fait froid.
Ils sont 6 à vivre dans ce 25 mètres carrés, pas chauffé, aux murs moisis, troués, infestés de cafards. Mais c'est toujours mieux que la rue qui nous attend, répète le père Jamal.
Il n'y en a pas maison, il n'y en a pas hôtel, où est parti moi?
Comme beaucoup d'autres locataires victimes de marchands de sommeil, il n'a signé aucun bail, aucun contrat. Il n'est donc pas considéré comme prioritaire pour être relogé par la ville, explique Véronique d'Auvergne, l'adjointe en charge de l'hygiène et de la santé à Aubervilliers.
En tant que ville, on est obligé de respecter cette loi.
Bien entendu, on va leur proposer le 115. Ce n'est pas une solution, mais on essaye de prioriser dans ces cas-là.
Un discours qui passe mal auprès de Maëlle, une autre locataire, car ce n'est pas faute d'avoir alerté sur l'état de cette copropriété dégradée.
Pour moi, c'est pas dangereux depuis hier et que jusqu'ici, tout le monde s'en lavait les mains et que maintenant, on nous donne 2 semaines pour remballer nos affaires. C'est hyper violent.
À 2 jours de la date fatidique, une quarantaine d'habitants restent sans solution de relogement.
Reportage France Bleu Paris en Seine-Saint-Denis. 28 000 logements privés sont considérés comme indignes, soit 15% du parc. Et quand le compteur s'affole encore, la barre des 2 euros le litre d'essence est à nouveau franchie dans certaines stations-service. Mauvaise surprise pour ceux qui rentrent de ce long week-end de la Pentecôte. Margot Turgy, France Bleu Maine, sur la 11.
À la pompe, les voitures défilent avec à chaque fois des compteurs qui s'envolent.
19 litres pour 41 euros.
73 euros, 33 litres.
C'est très cher,
ça m'affole.
Certains ont donc trouvé des astuces, comme Thomas, de retour d'un week-end au Puy du Fou.
On est 4 dans la voiture, donc ça permet de réduire un petit peu, mais en soi, ça fait 10 euros par personne en plus par rapport à la normale.
Partager, c'était la seule solution pour alléger la facture.
Le train était trop compliqué. Alors après, il y a l'alternative du bus qui est un peu trop long, ouais. Pour un week-end de 3 jours, pas évident. Ouais.
D'autres comme Arthur, qui a dû débourser 150 euros pour 750 km aller-retour entre Nantes et Paris, ont dû rogner sur les dépenses du week-end.
Sur le fait de ne pas pouvoir forcément aller dans un restaurant ce week-end avec mes amis, et plus à faire un barbecue à la maison.
Quant à la remise de 18 centimes par litre en place depuis le 1er avril,
sur les pleins que je fais, je ne le ressens pas directement à la pompe, ça n'a aucun impact sur le budget.
Même ressenti pour Emmanuel.
J'ai payé mon litre à 2,35. Je ne sais pas où sont les 18 centimes. Ce serait dramatique s'ils n'y étaient pas. Mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas difficile de payer son essence à ce prix-là.
Alors même si l'aide du gouvernement pourrait être prolongée en août, certains imaginent déjà repenser leur projet pour l'été. Partir moins loin de chez eux en vacances pour payer moins cher en essence.
Et peut-être revenez-vous en voiture d'un mariage. C'est la période et ça devient une préoccupation pour certains maires régulièrement confrontés à des débordements. Ce week-end encore, en Seine-et-Marne, à Pont au combo, une trentaine de voitures ont bloqué le centre-ville, puis la francilienne, cet axe routier très emprunté. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir Hélène.
L'un des invités, très alcoolisé, a même tenté de percuter un policier.
Oui, tout avait pourtant bien commencé de l'aveu du maire PS de Pont au combo, qui a lui-même célébré ce mariage. Une centaine d'invités, plutôt disciplinés. Mais au sortir de la mairie, le cortège de véhicules s'élance bruyamment en centre-ville et quelques heures plus tard, Gilles Bord, le maire, apprend que ce même cortège a bloqué la francilienne.
Je le vis assez mal parce que comme c'est pas forcément une bonne publicité qui est faite pour la commune, on a du mal à maîtriser certains, bien que ce soit des faits qui soient extrêmement rares sur la commune. De mémoire, il y en a eu 2 sur les 10 dernières années. Et ceux de samedi n'ont pas été caractérisés sur la commune, ils l'ont été sur une autoroute, donc au-delà de ma compétence.
Sur cet axe à 2x2 voies, le cortège s'arrête, les convives descendent de voiture pour danser sur la chaussée, interrompant le trafic et nécessitant l'intervention de la police. Pour tenter d'échapper au contrôle, un chauffard, vous l'avez dit, de 25 ans fonce sur un policier avant d'être interpellé. Pour le maire de Pont au combo, la réponse pénale est insuffisante.
Quand vous connaissez l'individu qui était en récidive de suspension de permis, qui avait 1,5 g d'alcool, c'est un individu qui a été mis en garde à vue et qui n'est convoqué que le 30 novembre devant le tribunal judiciaire. Donc, où on a une vraie carence, c'est sur la réponse pénale. Il faudrait bien sûr que cette réponse soit beaucoup plus rapide pour justement empêcher que de tels faits se renouvellent.
Gilles Bord, qui se refuse pour l'heure à prendre des mesures coercitives, à l'image du maire de Poissy dans les Yvelines. Depuis le début de l'année, une caution de 1 000 euros est réclamée aux futurs époux. Le ministère de l'Intérieur envisage de généraliser ce dispositif pour éviter les noces qui dérapent.
Sébastien Sabiron, alors c'est râpé pour ce week-end qui se termine. Mais vous avez jusqu'au 30 octobre prochain pour aller faire un tour dans ce lieu assez unique, la maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. Il y a vécu pendant plus de 15 ans. Et si on connaît le Cocteau poète, cinéaste ou même peintre, on connaît moins sa passion pour les collections. Il a accumulé des milliers d'objets tout au long de sa vie. L'exposition du moment regroupe tout un tas de pièces en forme d'animaux. Assez fascinant, Cyril Ardo.
Une boîte en bois en forme de hibou, un fauteuil en corne de buffle, une grue porte-encens, une tête de bouc, brûleur à opium ou encore un cheval de manège. Une vingtaine d'objets au total, chinés par l'artiste ou reçus en cadeau. Muriel Janton est la directrice de la maison Jean Cocteau.
Ce ne sont que des objets qui sont dans la maison et qu'on a choisi de mettre en valeur avec des lumières, avec une scénographie. La maison est pleine d'objets et quand le visiteur se promène, il ne voit pas forcément toutes les choses qui composent cet univers.
Jean Cocteau aimait profondément les animaux, il en était entouré, peut-être parce qu'il a toujours conservé son âme d'enfant. C'est ce qu'il expliquait dans une interview en 1962.
J'aime les personnes qui conservent leur enfance. Si j'ai un vœu à former devant tous nos petits camarades, c'est que quand ils seront devenus des grandes personnes, ils restent toujours des enfants.
Dans cette exposition, il y a peu d'explications sur l'histoire des objets. Seules quelques phrases tirées des journaux intimes de Jean Cocteau. Anne Ledibert-Der est la conservatrice.
Il évoque des acquisitions où il se désole de la disparition d'un objet. Cette espèce de passion pour les objets, il l'exprime à longueur de phrases.
Une autre exposition est à voir en ce moment à la maison Jean Cocteau sur Parade, un ballet avant-gardiste créé avec Picasso et le compositeur Eric Satie.
Voilà donc pour cette idée de promenade et de découverte pour tout l'été. Hein, c'est la maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt.
Eh ben très bien, on a retenu le lieu, la date et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Hélène, on se retrouve évidemment demain. Pour nous, ça continue le 18-20 de France Inter. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va se demander si cliquer, c'est polluer. Est-ce qu'on peut être un décroissant numérique? À quoi ça sert au fond à l'échelle mondiale? Est-ce qu'il me suffit d'effacer tous mes mails ou d'arrêter de racheter un téléphone? On voit ça ensemble, on jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et Jean-Pierre Hamon, un temps calme pour demain avant le retour d'un temps pluvieux prévu pour mercredi.
Et oui Fabienne, à part de faibles pluies demain matin entre les Hauts-de-France et la région Grand Est et de la Bourgogne à la Franche-Comté, s'isolant l'après-midi vers les frontières du Nord et du Nord-Est, eh bien votre météo sera plutôt calme sous un ciel d'abord nuageux en matinée, excepté autour de la Grande Bleue. Et puis l'après-midi, vous profiterez de belles éclaircies. Le soleil va briller sans partage sur les régions méditerranéennes. En contrepartie, le vent de Nord-Ouest va souffler entre 60 et 70 km par heure. De nouvelles pluies aborderont la pointe bretonne avant la fin de la journée. Cette perturbation va traverser notre pays d'ouest en est durant la journée de mercredi. À son passage, les pluies seront parfois marquées. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné. Demain, les températures maximales globalement de saison évolueront généralement entre 18 et 25 degrés, avec 18 à Cherbourg, 19 à Lille, 22 à Nancy, 23 à Paris et Bordeaux, 25 à Toulouse. La chaleur restera d'actualité dans le sud-est avec un mercure jouant, voire dépassant la barre des 30 degrés. Prévoyez 31 degrés à Orléans et Nîmes et 33 à Marseille.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hamon de Météo France.